Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une évidemment, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, interrogée depuis ce matin, 7h, par les gendarmes. Elle est soupçonnée de recel de cadavres. C'est un rebondissement important dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard il y a un an, jour pour jour. Que sait-on précisément sur ce dont est soupçonnée la gardée à vue? On est avec William Molinier du service police-justice d'Europe 1 et puis on sera en direct dans quelques instants avec l'avocat de Cédric Jubilard. Les 5-11 ans les plus fragiles peuvent se faire vacciner depuis ce matin. On rejoindra Lionel Gougelot dans un centre de vaccination à Valenciennes, au vaccinodrome de Valenciennes. Et puis avec le professeur Philippe Amouyel, on verra ce qu'il faut penser des dernières mises en garde de l'OMS qui s'inquiète de la rapidité de propagation du variant Omicron. Des magistrats, des avocats, des greffiers en grève aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens de la justice. On sera avec notre reporter au cœur du rassemblement devant Bercy et qui nous dira quelles sont les conséquences concrètes de ce manque de moyens dans le fonctionnement de la justice au quotidien, vous allez voir. Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, sera avec nous. On va parler du 80 km/h qui recule en France. Le ministère de l'Intérieur publie la carte des départements qui ont rebasculé à 90 km/h. On va essayer de s'y retrouver. Et puis la tendance météo avec vous, Anissa Haddadi. Les jours se suivent et se ressemblent.
Oui, c'est le même scénario qui se répète encore une fois aujourd'hui, Romain, avec une nouvelle journée ensoleillée, presque printanière sur la moitié sud. Au nord de la Loire, en revanche, les nuages dominent encore aujourd'hui. Le point positif, c'est le retour des éclaircies en Bretagne cet après-midi.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. C'est donc une piste sérieuse que semblent tenir les gendarmes. Ils interrogent depuis ce matin 7h la nouvelle compagne de Cédric Jubilard dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, c'est-à-dire il y a juste un an, jour pour jour. William Molinier avec nous, service police-justice d'Europe 1, juste avant d'entendre l'avocat de Cédric Jubilard qui sera en direct avec nous dans quelques instants. William, que sait-on de cette garde à vue? Les dernières informations.
Eh bien, selon une source proche de l'enquête, elle a été placée en garde à vue pour recel de cadavres. Alors, même si pour l'instant on ne sait pas précisément ce que lui reprochent les enquêteurs, cela signifie qu'ils ont des soupçons sur l'implication de cette femme dans la dissimulation du corps de Delphine Jubilard, ou à minima qu'elle sait où se trouve le cadavre. Une perquisition dans son appartement de Lescure d'Albigeois a eu lieu ce matin. Cette suspecte, elle s'appelle Séverine, elle est âgée de 44 ans. Elle s'est rapprochée de Cédric Jubilard au cours d'une battue organisée en tout début d'année. Tous les deux se sont rendus compte que leurs enfants avaient été dans la même classe. Ils se sont mis en couple en avril dernier, puis ils se sont montrés ensemble sur les réseaux sociaux, ce qui a choqué les proches de Delphine Jubilard. Elle a toujours affiché un soutien inébranlable à son nouveau compagnon, y compris après son incarcération en juin. Tous les deux communiquent par courrier, puisque Cédric Jubilard est placé à l'isolement. Des lettres qui sont évidemment surveillées de très près par l'administration pénitentiaire. Cédric Jubilard a toujours contesté avoir tué son épouse. 10 enquêteurs travaillent à temps plein sur ce dossier de près de 2500 pièces de procédure. Dossier qui donc s'épaissit encore aujourd'hui avec cette nouvelle garde à vue.
Merci William, vous restez évidemment avec nous. Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi.
Bonjour.
Si je comprends bien, recel de cadavres, ça veut dire qu'il y a cadavres, ça semble accuser votre client Cédric Jubilard.
Écoutez, là, je n'ai absolument aucun commentaire à faire. Je ne connais pas les raisons. Je viens d'apprendre le motif de cette garde à vue, mais je ne connais absolument pas les éléments que détiendraient les gendarmes. Je ne sais pas si ce sont des soupçons, je ne sais pas s'ils ont des preuves. Je suis incapable de commenter plus avant cette information que j'ai appris par votre intermédiaire ce matin.
Depuis quand se connaissent-ils tous les deux?
Ils se sont retrouvés, ils la connaissaient depuis longtemps, au moins de vue, ils n'étaient pas en relation, ils se sont retrouvés en début d'année et ils ont entrepris une relation à partir du mois d'avril à peu près.
À partir du mois d'avril. Vous avez pu vous entretenir ce matin avec Cédric Jubilard?
Ah non, il est à la maison d'arrêt, mes activités ne m'ont pas permis pour l'instant de le rencontrer.
Pour l'instant, vous n'avez pas pu lui en parler.
Pas aujourd'hui, en tout cas.
Pas aujourd'hui, en tout cas. Vous êtes avocat, hein, vous connaissez les procédures par cœur. Recel de cadavres, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Expliquez-nous.
Ça veut dire que les gendarmes supposeraient qu'elle aurait eu un rôle dans la disparition du cadavre de Delphine Dubillard.
Ça veut dire donc qu'un cadavre a été retrouvé?
Pas forcément, je ne sais pas, pas forcément. J'imagine que cette info, on l'aurait eue, je ne sais pas. Ou qu'il soupçonnerait peut-être qu'elle aurait participé à éventuellement une dissimulation. Encore une fois, je ne sais pas, là, je ne vais pas jouer à l'apprenti sorcier, je n'en sais rien, je connais l'infraction, mais je n'en connais pas les tenants et les aboutissants dans le cas qui nous intéresse.
Vos demandes de remise en liberté ont toujours été refusées hein, depuis juin, depuis le placement en détention de votre client. Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que ça semble prouver qu'il y a un fort soupçon qui pèse sur votre client?
Non, c'est pas. Non, on peut pas faire une analyse comme ceci. Ils ont considéré qu'il y avait des indices suffisants pour l'incarcérer. Nous avons à plusieurs reprises démonté un à un ces indices, et puis surtout les magistrats ont attendu 6 mois avant de l'entendre sur le fond du dossier. Ça a été le cas le 3 décembre, il a répondu à toutes les questions, et aujourd'hui, nous estimons que sa détention n'est plus nécessaire au bon déroulement de l'instruction en l'état actuel du dossier.
Merci Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubillard, d'avoir choisi Europe 1 pour parler en cette mi-journée. Merci beaucoup. 12h36, si vous allez vous faire vacciner à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être croiser des enfants entre 5 et 11 ans, uniquement des enfants à risque. Uniquement ou presque d'ailleurs, vous allez voir. Lionel Gougelot en direct avec nous de Valenciennes, au vaccinodrome de Valenciennes. Bonjour Lionel.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous avez croisé les premiers candidats ce matin.
Oui, effectivement, et parmi eux, Marie, la maman de la petite Élise, 9 ans, qui ont décidé toutes les deux, et vous allez l'entendre, cette vaccination, et bien tout simplement pour la bonne cause.
Donc on est là pour vacciner nos deux enfants, donc qui ont 9 ans et 11 ans, pour protéger leur grand-mère qui est immunodéprimée. Ils ont une petite appréhension par rapport à un vaccin, mais comme n'importe quel vaccin.
À la fois j'ai pas envie, à la fois j'ai envie, c'est ça le truc. J'aime pas me faire vacciner, du coup j'ai pas envie, mais à la fois j'ai envie pour protéger ma famille, du coup je suis partagée.
Alors je vous rassure, hein, tout s'est bien passé hein, pour la petite Élise. Il faut savoir qu'ici un circuit pédiatrique a été spécialement aménagé pour les enfants, notamment ceux, vous l'avez dit, qui sont atteints de pathologies assez lourdes. Tout cela pour dédramatiser en fait cette injection, et c'est Amélie, l'infirmière, qui se charge de les rassurer.
Je suis maman, j'ai un enfant de 4 ans, j'ai fait les centres RR une bonne partie de ma vie avant d'être infirmière, donc du coup je sais comment fonctionnent les enfants, mais ils sont pas trop stressés, les parents non plus, ils viennent vraiment en toute sérénité, on voit.
Et puis, vous l'entendez peut-être, il y a de la musique de Noël ici, Romain, parce que figurez-vous qu'en fin de parcours, il y a même le Père Noël qui est là pour adoucir la piqûre.
J'ai laissé mes lutins justement tout seul, je leur ai dit je m'en vais à Jean Mineur pour rassurer les enfants. Et bien entendu, un petit peu avant l'heure, il y a distribution de friandises et de jouets. Jusqu'à ce matin, il n'y a pas eu de pleurs.
Une vingtaine de rendez-vous pour enfants ont été inscrits aujourd'hui, mais face à la demande, eh bien le docteur Franzoni, le coordinateur du centre, va devoir prévoir plus de vaccins.
Sur la fin de semaine, on était à plus de 50 rendez-vous déjà de pris spontanément. On a eu des allocations qui étaient assez réduites initialement en flacons. Et donc là, je dois faire une demande parce qu'on finira pas la semaine avec ce qu'on nous a donné.
Un dispositif qui sera au bout du compte bien rodé quand cette vaccination sera élargie à tous les enfants de 5 à 11 ans, et cela quel que soit leur état de santé.
Merci beaucoup Lionel. Voilà, le Père Noël, ça fonctionne pour attirer les enfants, ça peut fonctionner aussi pour attirer certains réfractaires au vaccin. Merci Lionel, en direct du vaccinodrome de Valenciennes. Voilà pour les petits. Pour les seniors, les plus de 65 ans, il faut à partir d'aujourd'hui avoir reçu la dose de rappel pour conserver son pass sanitaire. On parle de ceux, attention, qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de 7 mois. Yasmina Katou avec nous est dans le studio. Yasmina, bonjour.
Bonjour.
Il y a 400 000 Français de plus de 65 ans qui voient aujourd'hui leur passe sanitaire désactivé. Qui sont-ils?
Alors, il n'y a pas de profil type, mais quelques éléments de réponse sont apportés par le ministère de la Santé. Les plus de 65 ans concernés par la désactivation de leur passe ne se pressent pas pour recevoir leur dose de rappel. Avec l'ouverture à la vaccination pour tous fin novembre, il y a eu embouteillage dans les centres de vaccination et les pharmacies. Beaucoup de Français cherchent en ce moment à se faire vacciner avant les vacances de Noël. Les plus de 65 ans attendraient donc un retour au calme. Ensuite, certains ont été infectés par le Covid récemment. Ceux-là doivent attendre 5 mois pour leur rappel. Pas d'inquiétude, leur passe sanitaire sera prolongé automatiquement. Enfin, selon le ministère de la Santé, certaines personnes âgées et isolées vivent à l'écart dans les campagnes, ne sortent pas au restaurant ou au théâtre. Elles estiment donc ne pas avoir besoin de passe sanitaire. L'assurance maladie a envoyé à tous ces retardataires un SMS ou un courrier pour leur rappeler de se faire vacciner au plus vite.
Merci Yasmina. On est en direct à présent avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur.
Bonjour.
Professeur de santé publique au CHU de Lille. Je voulais qu'on revienne avec vous sur les dernières déclarations de l'OMS qui disait ces dernières heures qu'elle n'avait jamais vu une propagation aussi rapide d'un variant depuis l'apparition de la Covid. C'est un critère de ce variant Omicron ?
Bah, apparemment oui, hein, puisque c'est ce qu'on a déjà vu en Afrique du Sud, c'est-à-dire sa plus forte transmissibilité. Les Britanniques ont commencé à faire des estimations, il semblerait qu'ils soient 40% plus transmissible que le variant Delta que l'on connaît, et les Danois également. Donc on a maintenant des données homogènes qui tendent à montrer qu'il a l'air plus transmissible que le Delta.
Plus transmissible que le Delta. Là, on est en train de vivre la cinquième vague de Covid avec le variant Delta. Ça veut dire qu'on va assister à la sixième vague en janvier avec le variant Omicron ?
C'est probable. Hein. Le variant doit être à peu près présent dans la plupart des pays. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut le détecter. Donc, il y a des tests qui permettent des criblages directement sur les PCR, plus des compléments d'information avec ce qu'on appelle le séquençage, la lecture précise. Donc, tout dépend dans les pays de l'implantation de ces techniques. Le Royaume-Uni et le Danemark sont très avancés dans ce domaine. La France, pour l'instant, n'a pas sorti un grand nombre de cas. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réellement un état de fait ou est-ce qu'on sous-estime cet effectif ?
L'OMS alerte également, professeur, sur une potentielle résistance d'Omicron au vaccin. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, on se rend compte que, à partir des études qui sont faites dans les laboratoires, les anticorps que l'on produit lorsque l'on est vacciné sont moins efficaces apparemment que pour l'Omicron que pour les autres variants. Alors, je vous rappelle que déjà, ils étaient un peu moins efficaces pour le variant Alpha, un peu moins efficaces pour le variant Delta. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que cette diminution d'efficacité touche essentiellement la transmission, hein, qui peut tomber à 20 à 40% d'efficacité seulement. En revanche, pour les formes graves, en fonction des scénarios de baisse d'immunité liés aux variants Omicron, on est dans des zones qui sont entre 70 et 90% pour les formes graves et pour les hospitalisations. Donc apparemment, quand même sur les formes graves, une protection qui sera apportée par une vaccination triple dose.
Merci beaucoup, professeur Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h42. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, la grève des magistrats. Ils réclament plus de moyens. Ils manquent de moyens. Et ça a des conséquences très concrètes sur la vie de la justice. Vous allez voir ça dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h45, mauvaise nouvelle, je suis désolé. Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français va baisser en 2022. Notre pouvoir d'achat va baisser l'année prochaine, c'est très clair. Hein. Un poste de dépense va particulièrement peser sur les dépenses des ménages. C'est la facture énergétique, Maud Descamps. Hein.
Oui, alors sur l'année 2021, déjà, notre facture d'énergie a augmenté, selon l'INSEE, de 30 euros par mois par foyer par rapport à 2019. La moitié de cette hausse est due à l'augmentation du prix du gaz, hein, plus 40% par rapport à 2019. Et puis, il y a le prix de l'essence. Hein, on dépense en moyenne 8 euros de plus par mois. Et vient s'ajouter à cela la hausse des prix de l'électricité. Et la situation ne devrait pas s'arranger en 2022, puisque l'INSEE table sur une perte du pouvoir d'achat, notamment parce qu'il y aura moins d'aide qu'en 2021, c'est-à-dire la rallonge de 100 euros du chèque énergie, ou encore les 100 euros de l'indemnité inflation qui commence à être versée ces jours-ci. Et sachez qu'à cette hausse des prix de l'énergie devrait s'ajouter celle des prix des produits manufacturés et des produits alimentaires. Début 2022, l'inflation devrait s'élever à 2,5% selon les dernières estimations de l'INSEE.
Des magistrats, des avocats, des greffiers en grève aujourd'hui pour dénoncer quoi ? Pour dénoncer le manque de moyens de la justice. On l'entend souvent ce terme, hein, manque de moyens. Wilfried De Villers en direct du rassemblement devant Bercy, devant le ministère de l'économie. Qu'est-ce que ce manque de moyens a comme conséquence concrète sur le fonctionnement de la justice ? Vous avez pu en parler avec des magistrats en grève ?
Oui, un manque de moyens criant, c'est ce que dénoncent avant tout ces magistrats, des procédures expédiées trop vite, des horaires à rallonge. Benoît Devigneau est juge à la Cour d'appel de Paris.
Plus de dossiers, plus compliqués, avec toujours aussi peu de moyens, ça crée forcément à l'arrivée une souffrance. Donc on a le choix entre soit pas très bien traiter les dossiers, soit prendre du retard, soit sacrifier sa vie de famille et son temps libre. Et je crois que beaucoup de collègues magistrats et de greffiers en sont arrivés aujourd'hui à sacrifier leur vie personnelle.
Et ils sont donc à environ 250 pour l'instant rassemblés presque aux portes du ministère de l'économie pour un rassemblement inédit, habillé en robe rouge, en robe noire, et un rassemblement qui a été organisé notamment à l'appel du syndicat de la magistrature, sa secrétaire nationale, Sarah Massoud.
Il y a le feu, en fait, au sein de l'institution judiciaire. Et ce cri d'alarme, aujourd'hui, il se manifeste par cette mobilisation devant Bercy pour demander des effectifs extrêmement conséquents, c'est-à-dire des greffiers et des magistrats en masse.
Le rassemblement a débuté il y a environ une demi-heure et devrait se poursuivre devant le ministère, toujours jusqu'à 15h.
Wilfried de Villers, merci beaucoup Wilfried. On va parler voiture. Le ministère de l'Intérieur vient de publier la nouvelle carte de France des départements qui roulent à nouveau à 90 km/h, ceux où l'on roule à 80 km/h et ceux qui sont un peu entre les deux et qui hésitent. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Romain.
Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Il y a des grandes zones qui se dessinent hein, quand on regarde cette carte quand même.
Hein. Oui, le cœur de la France, les zones les plus rurales, ce sont les zones qui majoritairement sont repassées à 90 km/h. Ça s'explique hein, bien évidemment pour la plupart de ces départements. On n'a peut-être pas toujours d'autoroute, on est loin des préoccupations des grandes villes et forcément, eh bien, on a besoin de sa voiture. Donc c'est une décision de bon sens pour ces départements. On a 4 départements qui sont entièrement repassés à 90. Allier, Creuse, Cantal, Corrèze. Voilà encore une fois la preuve de ces départements qui ont besoin de leur auto.
Des départements très ruraux. Hein.
Très ruraux et qui n'ont pas observé de réaugmentation du nombre d'accidents, mettant à mal l'argument de la sécurité routière et du gouvernement qui était de dire que le 80 allait sauver des vies. Au final, les statistiques d'accidents restent les mêmes.
Alors, quels sont les critères de sélection? Pourquoi est-ce qu'un département repasse à 90 km/h?
Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tombé dans une idéologie politique. C'est-à-dire qu'on a les départements qui sont plutôt écolo-compatibles et qui ont envie de rester sur cette théorie du 80 km/h. Et puis, il y a le pragmatisme des autres départements qui écoutent tout simplement ceux qui ont besoin de leur auto. Et quand on les écoute, qu'est-ce que dénoncent les automobilistes? Ce sont des variations incessantes de limitation de vitesse. On ne sait plus à quelle vitesse on peut rouler. On passe de 90 à 80, à 70, à 80. Et au final, pour quelques kilomètres hors d'auto, de trop, on se fait rattraper par le radar. C'est ça qui est insupportable. Donc nous, notre proposition, elle est simple à l'association, c'est de revenir à la règle du 90 tout simplement et de lancer un audit des limitations de vitesse et des infrastructures routières en France qui pourra permettre de faire remonter des points noirs, des zones où potentiellement on peut même abaisser à 70 si le 90 est trop élevé. Mais 80, c'était une limitation qui ne ressemble à rien, qui n'a jamais été acceptée par les Français.
Mais Pierre Chasseret, quand on a un accident à 80 km/h, c'est moins dangereux que quand on a un accident à 90 km/h.
C'est une évidence. Ça, c'est la théorie. Le problème, c'est qu'on a appliqué une formule mathématique à des comportements. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'effet escompté. Lorsque les routes étaient à 90, les Français roulaient en moyenne à 82 km/h. Maintenant que la limitation est à 80 km/h, devinez ce que font les Français? Ils roulent à 82 km/h. C'est-à-dire que les Français n'ont pas modifié de manière drastique leur comportement routier. On a une règle qui fait qu'on a 85-90% des usagers qui sont prudents, qui ne veulent pas enfreindre les règles, qui ne veulent pas prendre de risques, qui ne veulent pas trouver la mort au coin de la route. Donc arrêtons de mettre le curseur vers le bas. Ce qui est intéressant, c'est de trouver le point d'alchimie qui permet de faire en sorte que les Français acceptent la réglementation. Et donc une règle acceptée, c'est une règle qui est respectée.
Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on va parler d'un homme exceptionnel, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball. Elle joue ce soir, les filles. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h54, l'équipe de France féminine de handball est aux portes du dernier carré du mondial en Espagne. Les Bleus affrontent ce soir la Suède en quart de finale, coup d'envoi à 20h30. C'est un sport dont on ne parle pas énormément dans les grands médias, mais je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Cédric Chasseur, bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
Derrière ces Françaises, championnes olympiques en titre, il y a un homme, le sélectionneur Olivier Crumbles. C'est un coach historique qui, malgré sa grande expérience, a su se remettre en question. Expliquez-nous, racontez-nous. nous, c'est une histoire.
Oui, Olivier Crumbles est d'abord l'homme de tous les titres dans l'histoire du handball féminin français. Le titre européen en 2018, les titres mondiaux en 2003 et 2017, et le Graal, la médaille d'or olympique à Tokyo cet été. Mais dans cette histoire avec l'équipe de France, il y a presque deux Olivier Crumbles. L'homme autoritaire, presque tyrannique, qui a dirigé les Bleus d'une main de fer entre 2001 et 2013, histoire qui s'est terminée dans le fracas en ayant perdu le soutien des joueuses. Il a été, dans ce cas-là, débarqué. Et l'homme à l'écoute, qui s'efface, qui laisse son équipe faire ses propres choix sur le terrain, bah c'est celui d'aujourd'hui. Un homme changé, apaisé depuis son retour sur le banc en 2016. À l'image de ce temps mort, c'était lors de France-Russie en fin de semaine dernière. Échange entre Olivier Crumbles et le reste de ses joueuses, et Grace Zahadi notamment, qui est à la tête de ses joueuses.
Toi, tu joues fort.
Les blocs, ils ne fonctionnent pas depuis le début. Il faut qu'on les isole, elles vont avoir peur. Il faut qu'on les isole, qu'on envoie Méline sur le poste 3. Elle va aller
Yago,
la chercher.
Yago, on isole. Ouais. Yago, on isole.
Par contre, Méline, prépare bien ta sortie de balle.
Attention, elles peuvent jouer à 7.
1, 2, 3,
allez les meufs.
Voilà, donc c'était surtout Grace Zahadi qu'on a entendu plus qu'Olivier Crumbles, ouais. Et c'était plus la joueuse qui avait le pouvoir là sur ce temps mort que l'entraîneur, mais c'est ça aujourd'hui l'équipe de France féminine, des joueuses de talent mais aussi de caractère, et un sélectionneur qui leur fait entièrement confiance mais qui sait aussi se faire entendre quand il le faut. Le résultat, c'est un bilan de 13 victoires et 3 défaites dans les matchs à élimination directe depuis le retour d'Olivier Crumbles, 81% de victoires, et là on ne parle que des grandes compétitions, la statistique d'une grande équipe en quête cette année d'une troisième couronne mondiale.
Merci beaucoup Cédric Chasseur. Voilà, elle joue à quelle heure ce soir?
20h30.
Merci beaucoup Cédric.